Villard, 3 février 83, Rimont, Père-Philippe.
Bon, nous allons continuer à voir ce qu'est l'inspiration. Nous avions déjà pas mal vu dessus, mais essayer de comprendre comment l'inspiration, qui a ce caractère tout à fait particulier parmi les autres types de connaissances, c'est une source qui jaillit du poète, qui jaillit de l'artiste, et qui fait que l'objet est donné par le sujet. C'est ça qui caractérise cette connaissance. Autrement dit, la fameuse distinction entre sujet et objet, vous comprenez, est complètement dépassée. Puisque de fait, c'est le sujet lui-même qui se donne tel ou tel contenu objectif qu'il considère. Puisque c'est qu'une réalité possible. L'idée, le projet, c'est quelque chose de possible, qui provient de l'artiste, qui provient de l'intelligence liée à l'imaginaire. C'est à l'intérieur de l'imaginaire. L'imaginaire peut permettre cela, peut permettre cette naissance d'un possible, alors que la connaissance toute pure et spéculative ne le permettrait pas. C'est sûr, la connaissance est faite pour connaître et atteindre ce qui est. Ce qui existe. Et les deux pôles de la connaissance. À ce point de vue-là, c'est intéressant parce que ça vous fait comprendre que vous ne pouvez pas définir l'intelligence uniquement par un bout. Vous avez les deux aspects extrêmes. Alors, ça dépend comment le sujet, l'extrême, en haut ou en bas, hein, ça importe peu. Hein, vous pouvez renverser le tableau. Alors, vous avez en haut le possible. L'inspiration. Puis vous avez ici le point de vue de l'intelligence dans sa démarche fondamentale, jugement d'existence. Ceci est. Donc tout tendu vers l'autre. Et ici, au contraire, le possible, c'est le prolongement du sujet poète. Il se projette. Le possible, c'est son prolongement. Il va se dire. Voyez, tandis qu'au contraire, quand il, dans le jugement d'existence, il essaie de saisir l'autre, ce qui est. Vous avez là deux aspects de l'intelligence, donc deux aspects du nous, deux aspects de l'intelligence totalement différents. C'est très important parce que c'est ça qui fait comprendre comment, au fond, il peut y avoir dans la philosophie des aspects si divers et apparemment si contraires. Alors, vous voyez, si je suis dans la perspective d'Héraclite, ce sont ces contraires qui vont permettre de découvrir toute la fécondité de l'intelligence. C'est pas si bête, mais de saisir ces deux contraires de l'intelligence. Ce point de départ, c'est vrai, l'intelligence dans le sujet poète, c'est celui qui est inspiré. Quand il est inspiré, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit. Ouais, s'exprime, il se dit. Quand vous lui demandez ce qu'il dit, il le sent, il le vit. Donc il se dit, c'est le prolongement. C'est donc tout l'aspect de l'intelligence du vivant. Celui qui se meut, il se dit, il s'exprime, comme il le peut, hein, on verra comment. Il s'exprime, il se dit, tandis qu'au contraire, dans l'intelligence spéculative, l'intelligence la plus spéculative, c'est l'intelligence métaphysique. Donc l'intelligence spéculative, elle est son point de départ, c'est le jugement d'existence, ceci est, elle est tout entière tournée vers l'autre. Tout entière tournée vers l'être. C'est au fond les deux grandes oppositions. Ce que je dis là, c'est important, parce qu'au fond, la réaction de Nietzsche en face de la métaphysique classique, c'est de dire la métaphysique classique qui regarde l'être, donc qui regarde l'invisible, ment. Il n'y a que visible. Il n'y a que ce que je touche tout de suite, le possible. Et alors on met le possible avant l'être. Et c'est au fond important parce que ça va tout le temps venir, ces deux choses-là. Il y a deux conceptions, deux visions. Les deux sont vraies, hein, faut pas dire du tout. Il y en a une qui est vraie, l'autre qui est fausse. Les deux sont vraies. Le nous implique les deux. Hein. L'intelligence, si je le prends dans tout son développement, l'intelligence se développe comme une intelligence inspirée, une intelligence poétique. C'est une intelligence qui découvre tout à travers elle-même, à travers l'imagination poétique, l'imagination créatrice, une imagination liée à l'intelligence qui fait qu'à partir de là, il y a un monde tout à fait nouveau qui peut se vivre. Mais c'est vraiment dans le prolongement du sujet connaissant, c'est dans le prolongement du poète. Tandis qu'au contraire, l'intelligence spéculative, ce que nous considérons nous, hein, dans une position aristotélicienne, ce que nous considérons comme une intelligence plus pure. L'intelligence poétique n'est pas l'intelligence dans ce qu'elle a dans toute sa pureté. L'intelligence poétique, c'est une intelligence qui se dit, qui s'exprime. Tandis qu'au contraire, l'intelligence spéculative, c'est l'intelligence attentive au réel, attentive à l'autre, en attente vis-à-vis de l'être. Cette intelligence spéculative qui regarde l'être et l'autre intelligence qui se dit, deux formes d'intelligence. Vous voyez bien ? Alors, qu'est-ce qui me permet de dire pourquoi l'une est plus intelligence et que l'autre est une simple forme particulière ? C'est ça qui serait intéressant à voir. Parce que vous avez les deux formes, c'est évident, il faut les constater. L'intelligence qui se dit, c'est une intelligence qui est tendue vers l'homme. L'intelligence spéculative, c'est l'intelligence tendue vers la contemplation. Les deux grandes formes de l'intelligence. Une intelligence qui veut œuvrer et une intelligence qui veut contempler. Et c'est la même intelligence. Elle veut réaliser quelque chose parce qu'il y a des manques. Le possible, c'est toujours quelque chose que je peux réaliser et qui n'est pas encore réalisé. Et c'est pour ça que le possible me conduit à l'œuvre. Vous comprenez bien. Parce que si c'était déjà réalisé, je n'ai pas besoin. Oui, je peux multiplier ce qui est réalisé, mais il n'y a rien de nouveau. Tandis que le possible s'impose à moi comme nécessaire parce que c'est quelque chose qui n'existe pas encore, du moins pour mon intelligence humaine. Parce que ça peut exister à l'autre bout de l'univers où ça a pu déjà exister en dehors de moi. Mais c'est quelque chose que je considère comme n'existant pas. C'est pour ça qu'il peut toujours y avoir des poètes. Et c'est pour ça qu'on peut toujours reconstruire le monde. C'est parce qu'il se détruit à fur et à mesure, donc on peut toujours. Et c'est pour ça que c'était la grande vision de Malraux, le musée est une chose terrible pour l'artiste. Ce qui montre que tout est déjà réalisé. Vous savez, quand il n'y a pas de musée, c'est lamentable. Tout a été balayé, tout a été repris. Et c'est pour ça que Malraux considère que le musée, c'est une chose qui est. C'est la tradition qu'on doit assumer. Alors, l'artiste n'a pas de tradition. Le musée pose un problème terrible. La bibliothèque, ça pose un problème terrible. Ces gens qui font des bibliothèques, c'est effrayant. Parce qu'ils empêchent les gens de penser, n'est-ce pas ? Ils accumulent des données. Et le musée accumule tout ce qu'on a fait. Alors, quand on a visité un musée, on se dit, mais oui, il n'y a plus rien à faire. On voit très bien cette notion très, très... Et ça, c'est nouveau. Hein. C'est très nouveau, au fond. Dans l'humanité, par rapport à l'humanité, par rapport à l'âge de l'humanité, c'est très nouveau. On comprend que le musée et que la bibliothèque est un phénomène qui peut très bien conduire à la fécondité. Parce qu'on en a déjà tellement fait qu'on a... Avant d'assimiler tout ça, faut assimiler tout ça avant de faire quelque chose d'autre. Or, pour pouvoir assimiler tout ça, qu'est-ce qu'il y aura après? C'est le phénomène en petit, mais que tous on ressent. Vous avez une petite idée géniale pour faire un petit sujet, une petite idée géniale. Et puis on vous flanque à status questionis. Hein. Regardez l'état de la question. C'est-à-dire, allez regarder tout ce qui a été dit sur ce sujet avant de dire quelque chose de, qui vient de vous. Alors vous accumulez, vous allez à la bibliothèque, vous accumulez 20 livres à lire avant. Avant que vous ayez lu les 20 livres, vous aurez complètement perdu votre petite idée géniale. Complètement. Elle sera éteinte. Alors, c'est le sort actuellement de tous ceux qui veulent faire quelque chose. C'est le sort de tous ceux qui veulent faire quelque chose. Vous voulez faire une thèse, impossible autrement. Vous êtes obligé de passer par là. Oui, c'est terrible cette chose-là, cette situation hein, d'un homme qui a beaucoup vieilli et qui a inventé des musées, des bibliothèques. J'ai inventé ces choses-là, c'est l'homme qui les a inventées. Et alors à partir de là, il y a un poids terrible. Ce qui fait que l'inspiration qui est source, la source comme telle, est au-delà de la tradition. Et vous l'obligez d'assumer toutes les traditions pour garder le point de vue des sources. Oui, cette chose très... Alors, ce phénomène devrait étouffer l'artiste et faire tous des contemplatifs. Et ça fait pas ça. On devrait se dire ça. On a déjà dit tellement de choses, on n'a plus qu'à contempler maintenant. C'est merveilleux, tous les ans que tu as inventé pour nous, j'ai plus qu'à contempler. C'est merveilleux. Ils ont tous travaillé pour moi. Et le musée est là pour montrer qu'ils ont tous travaillé pour moi. Et la bibliothèque est là pour tous travailler pour moi. Je n'ai plus qu'à contempler. Et donc, cette accumulation des faits devrait conduire à un aspect de contemplation plus grand. C'est pas tout à fait ce qu'il fait, ce qui se passe. C'est curieux, ça, c'est très curieux. Mais c'est pour vous faire comprendre les deux pôles de l'intelligence humaine. Le pôle de l'intelligence humaine créatrice, la créativité, l'inspiration qui est source de créativité et qui conduit à l'œuvre. L'œuvre, c'est quelque chose d'inédit. Autrement, c'est plus une œuvre. Hein. C'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose de nouveau. Tandis qu'au contraire, ça provient du sujet, ça provient de la source, de l'artiste comme tel, du poète. L'intelligence spéculative, elle constate que l'autre existe. Et elle a le respect vis-à-vis de l'autre qui existe, elle ne veut pas du tout le transformer, elle veut le comprendre. Et donc, elle veut contempler. Voilà les deux pôles de l'intelligence. D'un côté, elle est source. De l'autre côté, elle contemple. Pour contempler, il faut être dans une attitude de réceptivité. Il faut être dans une attitude de celui qui attend, regarde et ne transforme pas. Alors là, nous touchons, voyez, les deux aspects de l'intelligence. L'intelligence, c'est à la fois quelque chose qui est capable de créer, capable de réaliser quelque chose, et en même temps l'intelligence, c'est quelque chose qui est capable de contempler, de respecter l'autre infiniment. Je crois qu'on a les deux extrêmes, vous voyez, de l'intelligence. Vous pourriez mettre à côté, simplement pour mieux comprendre, hein, toujours, le point de vue de l'intelligence lié à l'amour, à l'affectivité. Alors ça, c'est l'intelligence à l'égard de l'homme, à l'égard de l'ami. L'homme parfaitement homme, c'est l'ami. C'est celui-là que je connais. Vous avez une troisième forme d'intelligence, une intelligence affective, une intelligence qui s'approche par connaturalité, une intelligence qui est tout entière au service de l'amour. Elle s'efface dans l'amour et elle veut que l'amour progresse. C'est une troisième forme d'intelligence. Et vous voyez que ces formes d'intelligence sont commandées par leurs objets propres. D'un côté, c'est l'œuvre. Une œuvre, c'est ce qui vient de moi, donc il faut une source. De l'autre côté, c'est l'homme ami. L'homme, je ne le connais parfaitement que quand je l'aime. et de l'autre côté, c'est l'être qui conduit à l'être suprême qu'on appelle Dieu. Parce que c'est ici, on va dire, l'être suprême qu'on appelle Dieu. La métaphysique, la philosophie, dans ce qu'elle est plus spéculatif, va impliquer une théologie, donc de regarder Dieu et de contempler. Alors, vous avez trois grandes attitudes. Hein. Trois grandes attitudes. Je les mets comme ça, il ne faudrait pas les mettre comme ça. Hein. Vous comprenez bien, il faudrait des plans différents. Il faudrait trois plans différents. Et on met un ordre. Comment se fait-il que je dis que la contemplation est plus parfaite que la réalisation d'une œuvre et que c'est plus parfait encore que la connaissance affective à l'égard de l'ami? Pourquoi je peux dire ça? Ça ne me suffit pas de dire Aristote a dit ça, saint Thomas a dit ça, donc je le dis. C'est pas suffisant, c'est pas un critère au point de vue philosophique. L'autorité, c'est la dernière des raisons. Alors, pourquoi je peux considérer que la contemplation, c'est ce qui est de plus intelligent? La contemplation, c'est vraiment ce qui est de plus intelligent. Alors que l'intelligence poétique, elle se manifeste. Elle se voit. Elle se réalise dans une œuvre. Alors là, il y a quelque chose de merveilleux. C'est cette intelligence-là qui est la plus séduisante. Ah, c'est la plus séduisante, celle-là. Une intelligence poétique, c'est extrêmement séduisant. Elle réalise une œuvre. Et par l'œuvre, elle me séduit. L'intelligence de l'ami, l'intelligence par connaturalité, c'est pas une intelligence séduisante. Mais c'est une intelligence merveilleuse d'attente. C'est une intelligence merveilleuse d'accueil. C'est une intelligence merveilleuse d'enveloppement, de présence, de présence. C'est l'intelligence présence. Et l'intelligence contemplative, c'est l'intelligence encore en accueil, mais une intelligence qui a possibilité de se dépasser pour se joindre à l'égard de ce qui la dépasse complètement, ce qui la transcende. Trois grandes formes de l'intelligence. Et l'intelligence, c'est tout cela. Alors, comment puis-je mettre un ordre? Parce qu'à première vue, je dirais que c'est tout à fait anarchique. Et c'est vrai, c'est tout à fait divers. Allô, 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 hein, comme on dirait au point de vue grec. Hein. C'est autre, autre, autre. Et donc, si c'est autre, 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 et pourtant, il y a quelque chose de commun, l'intelligence. Oui. Je dis ça, c'est pour briser les cadres, hein, un petit peu trop. Le mousse, l'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Ça dépend, il y a diverses formes d'intelligence. Vous avez là trois grandes formes. Alors, est-ce que je peux, à travers cette diversité, maintenir un ordre? C'est-à-dire que l'intelligence est premièrement l'intelligence. Parce que vous dites, oh non, ça vous dit ça parce que vous êtes un religieux, l'intelligence contemplative. Mais au fond, l'intelligence politique, c'est l'intelligence de l'amour de l'homme. C'est celle-là qui est la plus intelligente. La perspicacité de l'intelligence, c'est à l'égard de l'homme. Ou l'intelligence créatrice, ben c'est la plus intéressante. C'est la plus brillante, c'est celle qui se manifeste le plus. Et comme c'est difficile, hein. Parce que c'est pourtant cela qui va me permettre de dire oui. C'est vrai que l'intelligence contemplative est la plus, c'est là où l'intelligence est le plus elle-même. Et elle est parfaitement elle-même que dans cette intelligence spéculative, dans cette intelligence contemplative. Parce que l'intelligence est avant tout ordonnée vers l'autre. Est-ce que vous dites ça a priori? Hein? Il faut réfléchir dessus. Puis quel sera qui me donnera une réponse intelligente. Non, pas maintenant, réfléchissez. Il faut réfléchir là-dessus, pour essayer de comprendre quel est l'ordre profond. Et à partir de là, vous voyez, vous pouvez saisir ce qu'on appellera la ratio intellectus, la raison d'intelligence, ce qu'est l'intelligence. Et l'intelligence se donnera selon ces trois modalités. Je dis ça, c'est pour que tout de suite, hein, dès que nous creusons l'inspiration, nous commençons à être plus intelligents. Parce que c'est une des modalités. Et que si je ne regarde qu'un aspect de l'intelligence, je risque toujours d'identifier l'intelligence avec telle ou telle de ses modalités. Et alors ça, ça devient la logique. Oui, une intelligence qui s'identifie avec telle ou telle modalité est une intelligence qui n'est plus l'intelligence. Parce que le problème de l'intelligence est d'appliquer tout de suite cette diversité. Elle est capable de contempler, elle est capable d'être au service de l'amour, elle est capable de réaliser une œuvre. Et une véritable intelligence est capable de faire tout cela. Alors, avec plus ou moins d'habileté, on dira, moi je suis surtout du côté contemplatif, moi je suis surtout du côté affectif, imbattable. Socrate le disait, Socrate disait ça, il ne faut pas l'oublier, il disait ça. Les dieux m'ont donné un don extraordinaire pour découvrir les amoureux. Les dieux m'ont donné ça, et ils considèrent que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est toute l'éthique qui est née de là. Et la point de vue poétique. Et c'est bon de découvrir sa forme d'intelligence. C'est bon de découvrir ça. Il ne faut pas se fermer aux autres formes d'intelligence, mais c'est bon de se découvrir cette forme d'intelligence, parce que de fait, il vaut mieux toujours progresser dans le lieu où on est plus orienté. On va plus vite. Et si vous vous perfectionnez très fort d'un côté en restant ouvert vis-à-vis d'un autre, il y a un apport vis-à-vis de l'intellectus. L'intelligence est présente dans chacune de ses modalités. Bon, alors, on mettrait un petit papier, je verrai si vous avez réfléchi. C'est bon comme petit exercice. Hein? Petit exercice. Qu'est-ce que c'est le TST de l'intelligence ? Le TST de l'intelligence, vous voyez ? Qu'est-ce que c'est l'intelligence ? Qu'est-ce que c'est qu'être intelligent ? La ratio intellectus. Pas l'entendement, hein ? Le gros entendement de Descartes. Non, non, non. Non, la ratio intellectus. Quelque chose de beaucoup plus profond. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quand vous regardez ces trois premières vues, vous dites, c'est tellement divers, rien de commun. Mais même si c'est dialectiquement, on peut mettre des oppositions. Dialectiquement, c'est facile de mettre une opposition. C'est juste, comme attitude, c'est juste inverse. Et pourtant, non, il y a quelque chose de commun. Et c'est ça l'intelligence. Alors, comprenons que cette intelligence de l'inspiration, je ne reprends pas tout ce que j'ai dit sur l'inspiration, mais je voudrais avec vous comprendre que ce premier moment, parce que je crois que c'est un premier moment, génétiquement. Vous voyez, quand je dis ça, j'implique déjà toute une hiérarchie. C'est le premier moment de la vie de l'intelligence, je crois, génétiquement. Mais je dirais aussi que c'est le dernier moment. Oui. L'intelligence poétique à la manière de Saint Jean de la Croix, c'est quand même quelque chose de très grand. Alors, est-ce que c'est plus que l'intelligence spéculative à la manière de Thomas d'Aquin? Mais Thomas d'Aquin, de temps en temps, devient poète pour le Eucharistie. Puisqu'il nous donne la liturgie de l'Eucharistie. Il se fait poète à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est plus ? Est-ce que c'est plus la liturgie ? Ou est-ce que c'est plus la contemplation ? Vous voyez, tout ça est commandé par cette vision. Il ne faut pas oublier, c'est quand même tout ça qui commande. Alors, tout dépend si vous mettez. Premier, deux, trois. Alors le soubassement de tout ça, soubassement. Et ça, la grâce ne supprime pas la nature. Vous pouvez transposer la liturgie, la charité fraternelle, la contemplation. Donc l'oraison. Écrivez ça en rouge, j'avais décrit rouge. Ah, voilà. L'ordre surnaturel, c'est en rouge, toujours. Alors vous avez donc l'oraison, transposition, la transposition analogique. Alors le halo au carré. Hein. Alors vous avez charité fraternelle, et puis ici liturgie. La première liturgie. Elle est poétique. Elle est symbolique. Mais comme c'est intéressant, parce que le soubassement, c'est forcé, ça joue, ça ne peut pas être autrement. La grâce ne supprime pas la nature. Et la grâce ne supprime pas la structure de l'intelligence. La foi ne modifie rien à la structure de l'intelligence. Donc si la foi ne modifie rien à la structure de l'intelligence, je dois chercher quelle est la structure profonde de l'intelligence. Si je ne fais pas ça, je me mets dans une attitude de quelqu'un qui sera incapable de juger lui-même. Alors là, on touche à la structure très très forte de l'intelligence. Ratio intellectus, hein, la raison d'intelligence. Qu'est-ce que c'est qu'être intelligent? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Bon, alors, je continue, hein, je laisse ça. Je le laisse à titre de réflexion. Parce que ça fait partie d'une réflexion constante, ça. Il y a des moments où ça doit devenir plus net. Alors, je continue en disant l'inspiration qui regarde le possible, le contenu de cette connaissance. C'est une connaissance symbolique. Je vous dis que je vais donner un petit mot là-dessus, parce que ça me semble très important de voir que c'est une connaissance symbolique. La connaissance humaine naît d'abord dans le symbole. Et elle demande toujours d'y revenir. C'est un peu le berceau de l'intelligence, hein, le duvet de l'intelligence, elle est symbolique. Alors quand vous avez supprimé tout à fait le duvet, le berceau, ça devient très très dangereux. C'est vrai, le rationalisme tend à supprimer le verso. Le rationalisme. Le rationalisme poussé à l'extrême. Pas de connaissance symbolique, plus de connaissance symbolique du tout. Alors, on ne veut plus ça. Alors que je crois qu'on peut dire qu'elle est première génétiquement et d'une certaine manière ultime. Ultime, la plus parfaite, mais ultime parce qu'elle revient au terme. Alors regardons comment ce possible poétique va se traduire dans une connaissance symbolique. Alors que lorsqu'il s'agit de la connaissance affective, elle ne va pas, elle pourra se traduire aussi dans une connaissance poétique. Il faut être amoureux pour chanter. Faut être amoureux pour être poète, vous savez bien. Si on n'est pas amoureux, ça ne va plus. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de source. Alors on ne peut pas. Mais aimer est autre chose que le symbole. Ce n'est pas la même chose du tout. Hein. La connaissance, l'amour exige la réalité. Tandis que la connaissance symbolique sera... Je vais t'endormir avec mes poèmes. Très, très bien. Mais non, moi, je veux t'aimer. C'est une manière de s'échanger. Et la connaissance intellectuelle, la connaissance contemplative, elle va réclamer le silence. Et donc, une purification radicale de la connaissance symbolique. Purification radicale de la connaissance symbolique, ça, c'est sûr. D'une certaine manière, ça... Et avant d'arriver à cette contemplation, il y a toute l'analyse philosophique. Et l'analyse philosophique n'est pas précisément une connaissance symbolique. C'est une connaissance qui peut être au contraire extrêmement précise. La connaissance des principes n'est pas symbolique. C'est une connaissance qui veut aller très loin dans l'ordre de la précision. Alors qu'est-ce que c'est que la connaissance symbolique ? Nous dirions ici que la connaissance spéculative est une connaissance conceptuelle. La connaissance affective est une connaissance qui implique des secrets. Et la connaissance poétique est une connaissance symbolique. Alors, je sais bien, le symbole peut cacher des secrets, mais c'est symbolique. C'est pas la même chose. Je crois qu'il y a trois moments différents. Vous voyez, il y a le concept, donc ce qu'on va appeler en scolastique, ce que saint Thomas appelle le verbe, et le concept, le verbe intérieur, le secret, et puis la connaissance symbolique. Qu'est-ce que c'est que le propre de la connaissance symbolique ? C'est que la connaissance symbolique reste toujours liée au visible, au sensible. C'est le propre d'une connaissance symbolique. Elle ne peut pas se séparer du sensible. Alors qu'une connaissance conceptuelle, par définition, s'éloigne du sensible. Le concept, quand il naît avec un mode universel. Et s'il naît avec un mode universel, le concept, justement, parce qu'il naît avec un mode universel, le concept est au-delà du singulier, est au-delà du visible et du sensible. Concept homme, pour prendre un concept animal, concept générique, ou un concept alors plus particulier, d'un prince, quand vous dites tel ou tel principe, la substance cause selon la forme de ce qui est. Bon, il n'y a absolument rien de sensible. Vous êtes donc là, vous êtes au niveau de l'universel. Le concept, normalement, n'apparaît qu'au niveau de l'universel. Le secret, il est toujours personnel. Il n'y a pas de secret en dehors des personnes. Le secret est toujours personnel, toujours. Il est personnel, donc il est individuel. Dès que ça devient quelque chose d'universel, c'est plus un secret. Ça fait bien. La grande manière de supprimer les secrets, c'est d'écrire tout haut. Pour tout le monde. Alors à ce moment-là, vous supprimez le secret. C'est plus un lien personnel, c'est plus quelque chose d'individuel. Ça devient quelque chose de commun, très proche de l'universel. Et puis, le point de vue du symbole, le symbole. Est-ce qu'il est universel? Il y a quelque chose d'universel. Il y a quelque chose d'universel. Une vraie connaissance symbolique a quelque chose d'universel. Puisqu'elle doit pouvoir être. Quelque chose de nouveau qui apparaît à cause de l'affectivité, à cause de l'amour. L'amour va permettre, vous voyez, c'est le propre de l'amour, va permettre une signification personnelle, un lien d'unité avec celui que j'aime. Et il y a cette unité qui se fait dans le secret uni, parce que je porte l'ami dans le secret. Et encore une fois, en prenant le secret au sens très fort, hein. Tout amour d'amitié implique un secret. Ce n'est pas des choses qu'on raconte, ce n'est pas des choses, des faits divers. Les faits divers, ce n'est pas des secrets. Ça peut être un secret momentané, parce que personne ne le sait encore. Mais le lendemain, à la radio, on le dit, tout le monde le sait. Donc ce n'est pas un secret. C'est un secret, il a été inscrit à un moment donné, parce qu'à ce moment-là, personne ne pouvait le connaître. J'ai été témoin d'un accident. Je sais que cette personne est blessée, personne ne le sait, c'est un secret, c'est mon secret. C'est mon secret, c'est pas un secret, demain tout le monde le sort. Donc c'est pas du tout ça qui caractérise le secret, parce que ça c'est uniquement lié au temps. Tandis qu'au contraire, la personne que je connais et que je porte en moi, parce que je l'aime, ça devient mon secret. C'est donc une connaissance personnelle, le secret, qui me lie personnellement. C'est en ce sens-là que c'est un coup et un quoi. Parce que c'est la présence de l'ami en moi, et cette présence de l'ami en moi, c'est quelque chose que je porte en moi. C'est le poids de l'amour, le secret. Oui. C'est ce poids de l'amour, c'est quelque chose de très très profond, très radical. Bon, de sorte que je crois qu'on doit dire que le secret implique une signification personnelle. Et c'est le seul moment où il y a une signification personnelle. Et il est analogue au concept. Qui est un coup et un quoi. L'idéal, lui, elle implique signification, ça c'est sûr. Et elle implique représentation. Et c'est ce qui caractérise l'idéal. C'est ce qui caractérise cette connaissance poétique. Et c'est ce qu'il y a d'unique dans cette connaissance poétique. Elle implique une représentation, par là elle est concrète. Elle implique une signification, par là elle a une certaine valeur. Une certaine valeur universelle, quelque chose d'universel. Elle peut jouer le rôle de prototype, peut jouer le rôle de modèle, peut jouer le rôle de mesure, parce qu'il y a une signification. Mais cette connaissance répugne à l'aspect, si vous voulez, abstrait, uniquement une valeur significative universelle. Elle est signification incarnée dans une représentation. Et plus l'idée est forte, plus la signification est présente dans la représentation. Plus la représentation est forte et ne fait qu'un avec le point de vue de la signification. Et c'est cela que nous portons en nous et que nous devons essayer de réaliser. Pourquoi l'idéa implique le travail et implique la réalisation? C'est parce que la représentation impliquée dans la signification demande de se concrétiser. Il y a une loi très profonde. Je crois qu'au point de vue épistémologique, c'est cela qui caractérise le mieux le symbole. C'est d'être une synthèse de signification de représentation. Alors ce serait très intéressant, vous voyez, d'évaluer là, et par là, d'évaluer ce que représentent ces connaissances poétiques. Parce que quand l'élément de représentation est plus grand que la signification, vous avez une inspiration poétique beaucoup plus romantique. Quand, au contraire, il y a adéquation parfaite entre signification et représentation, vous êtes en face d'une inspiration poétique beaucoup plus classique. C'est lorsque les deux se tiennent dans une très profonde unité. Alors à ce moment-là, il y a quelque chose de tout à fait particulier qui fait cette unité indissoluble. Je brise la connaissance poétique en supprimant l'élément de représentation. Je brise la connaissance poétique en lui enlevant sa signification. Ou alors je retombe dans un dégradé la représentation. Alors ce n'est qu'évoqué. Vous savez, il y a des poésies comme ça qui sont uniquement des représentations. Ça évoque. La représentation peut évoquer, mais elle ne dit rien. Et elle ne porte pas en elle quelque chose qui fait qu'on s'arrête à ça. Ça, c'est propre de la signification. On s'y arrête. Parce que cette signification est dans la représentation. Alors, vous voyez, ça, c'est propre, je crois, de la connaissance symbolique. Alors, quand on dit la connaissance symbolique, vous savez bien le vieux thème de la connaissance symbolique, sum bolon, divisé en deux, la partie et le tout qui se divise en deux. C'est très, très juste, ça, au point de vue étymologique, mais ça n'exprime absolument pas ce que c'est que la connaissance symbolique. La connaissance symbolique est quelque chose de beaucoup plus profond. Elle a son unité. Elle n'est pas double, la connaissance symbolique. Elle a son unité. Il ne faut pas dire que la connaissance symbolique, c'est une connaissance qui d'abord a été unie, qui a été d'abord une, qui s'est divisée, puis qui recherche son unité. Ce serait tout à fait détruire la connaissance symbolique. La connaissance symbolique a son unité propre. Et cette unité propre, c'est parce que, justement, il y a l'élément représentation, donc qui provient de l'image. C'est toujours dans une image que se réalise la connaissance symbolique. Donc toujours dans une représentation. Et dans cette représentation, il y a alors l'élément de la signification qui devient de plus en plus fort. Elle est de plus en plus, si vous voulez, en comprenant bien, intellectualisée ou spiritualisée. Elle est spiritualisée, elle est porteuse de toute l'intelligence de la signification, le propre d'une connaissance symbolique. Alors vous voyez que cette connaissance symbolique, elle est donc l'unité de tout l'imaginaire et de l'intelligence. Alors, je commence à comprendre pourquoi l'inspiration poétique, c'est l'intelligence dans l'imaginaire. C'est impossible autrement. Ce qu'il faut, représentation et signification. Et pensez à la manière dont, si vous voulez, dont Platon parle de la naissance de l'amour. L'amour naît de... C'est du reste très très beau, parce que c'est toute la, c'est, ce n'est pas l'amour, c'est beaucoup plus, je crois, la naissance du symbole de l'amour. La naissance de l'amour, c'est pauvreté et abondance. Poros et peña. Ça naît des deux. L'amour naît de la pauvreté et l'amour naît de la surabondance. Je dirais que la connaissance symbolique, elle naît de la représentation et de la signification. Elle naît des deux. Mais quand je dis elle naît des deux, faisons attention, il ne faut pas croire que les deux existent avant, et puis on a fait la synthèse. Mais c'est intéressant parce que c'est peut-être à cause de ça qu'on a dit que c'était une division. À cause de cette espèce de mythe qu'on porte, de voir que la connaissance poétique va faire une synthèse de quelque chose qui est antérieur. La connaissance poétique est synthétique. C'est forcément, puisqu'elle implique, dans le point de vue de la représentation, le point de vue de la signification. Elle est synthétique, elle n'est pas analytique, ce n'est pas une connaissance analytique. C'est une connaissance synthétique. Elle porte en elle cette unité, et cette unité qui est riche, et qui demande de se réaliser dans l'œuvre. Elle ne demande pas du tout d'être analysée, elle demande de se réaliser dans l'œuvre. Et c'est par l'œuvre que je verrai parfaitement si mon inspiration a été bonne, si mon inspiration a été vraie. Tant que l'œuvre n'est pas faite, je ne sais pas, je ne peux pas le savoir d'une façon absolue. C'est par l'œuvre que j'ai, si vous voulez, le contrôle ou la confirmation que mon inspiration est vraie. Je ne peux pas avoir de confirmation de mon inspiration comme vraie sans l'œuvre. Parce que mon inspiration, elle a un certain absolu en elle. Et elle ne peut pas s'analyser et par l'analyse voir si elle est vraie. Non. Elle est porteuse d'une unité indivisible. Et cette unité indivisible va se réaliser dans l'œuvre. Et alors, une fois qu'elle est réalisée dans l'œuvre, je peux dire, oui, votre inspiration, elle est grande à cause de l'œuvre. Vous avez porté quelque chose. Mais quelqu'un qui me dit, je porte une inspiration extraordinaire, merveilleuse, ça, je dis, réalisez-la. Et alors, une fois qu'elle l'aura réalisé, on verra. Oui. Parce qu'entre deux, il peut toujours y avoir la contamination de tout ça par le point de vue imaginaire. Et le point de vue imaginaire, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre au point de vue de la représentation qu'il deviendra impossible de se réaliser. C'est par la signification présente dans la représentation que l'œuvre peut se faire. L'œuvre ne peut pas se faire autrement. Vous voyez, un rêve, un cauchemar n'est source d'aucune réalisation. Pourquoi ? Parce que c'est de l'ordre de la pure représentation. Alors, ça ne peut pas se réaliser. Absolument impossible. Vous ne pouvez pas réaliser un cauchemar. Vous pouvez l'écrire, décrire, mais vous ne pouvez pas le réaliser. Ce n'est pas source. Et toute image qui n'est qu'une image n'est jamais source d'une réalisation. C'est par la signification que la représentation peut se réaliser. Toujours ce point de vue-là qui permet de comprendre la réalisation et qui permet de comprendre la réalisation dans l'œuvre. Donc, on peut dire que la connaissance symbolique est contemporaine de l'inspiration. Toute inspiration va se réaliser dans une connaissance symbolique. Oui, ça va très loin, ça, parce que ça fait comprendre comment l'inspiration divine ne peut pas se dire dans une connaissance spéculative. Impossible. L'inspiration divine ne peut se dire que dans une connaissance symbolique. L'homme ensuite devra comprendre que cette inspiration étant divine va impliquer un enseignement. Ce que ne fait pas habituellement le poète. Parce qu'autrement, il y aurait la théologie du poète. Alors, on fait la théologie de Claudel, n'est-ce pas, qui nous donne une œuvre inspirée. Et cette œuvre inspirée, je vais en faire la théologie. Je ne peux pas faire ça. Je peux faire ça que pour le symbole divin. Le symbole que pour l'inspiration divine. Pour l'inspiration divine, je peux le faire. Parce que l'inspiration divine, justement, me relie à une sagesse. Et m'exprime une sagesse. Alors je peux redécouvrir, à travers la connaissance symbolique divine, la sagesse divine. Et ce sera la théologie. La théologie, ce sera, à travers la connaissance symbolique de Dieu, redécouvrir l'enseignement de sagesse. Ce qui donne une très belle place à la théologie. Ce qui montre que la théologie, vous voyez, a quelque chose d'unique et qui sera toujours nécessaire. Tandis que dire la théologie, non, parce que c'est une connaissance poétique, donc ce n'est pas la peine. Alors à ce moment-là, c'est qu'on oublie que c'est un symbole divin, et on ramène le symbole divin à un symbole humain. Vous voyez, je crois que ça, c'est très important à saisir. Ce n'est pas commode à exprimer. Parce qu'on nous vend quelque chose de tout à fait premier. Il faudrait prendre une œuvre comme celle de Dante. Alors on voit bien du point de vue symbolique. Prenez une œuvre poétique, n'importe quelle œuvre poétique. Toute œuvre vraiment poétique, elle est symbolique. Mais un symboliste qui peut être extrêmement précis, classique, très peu romantique. Alors il sera d'autant plus profond dans la signification. Il sera d'autant plus fort dans la signification. Il aura quelque chose qui sera au-delà du temps, vous voyez. Pourquoi l'aspect de l'inspiration romantique est tellement lié au temps? À cause de l'imagination. Mon imagination, elle est dépendante du milieu dans lequel je suis. Tandis que mon intelligence, dans sa signification, est au-delà du temps. Et c'est pour ça que une connaissance symbolique classique est au-delà du temps. Tandis qu'une connaissance poétique romantique, elle est dans un temps. C'est pour ça que quand on dit que saint Thomas est de son temps, on répond non, parce que ce n'est pas une connaissance romantique. Alors quand vous dites, répondez ça aux théologiens qui vous disent que saint Thomas est uniquement de son temps. C'est théologique, c'est très bien pour le temps, pour le Moyen-Âge. Non, parce que ce n'est pas un poème romantique. Si c'était un poème romantique, ce serait vrai. Mais quand ce n'est pas un poème, quand pas un poème romantique, non. Déjà un poème classique, c'est pas vrai. Il est au-delà du temps. Parce qu'il touche l'intelligence. Et alors quand il s'agit de la connaissance spéculative, alors c'est évident qu'elle est au-dessus du temps. Elle est au-delà du temps. Donc cette connaissance symbolique, hein, qui est, cette inspiration, qui est une connaissance symbolique, va être au point de départ de toute réalisation d'œuvre d'art. Toute œuvre d'art s'appuie sur une inspiration. Et cette inspiration s'exprime à travers un langage symbolique. Parce qu'elle naît d'une connaissance symbolique. Et au terme, alors c'est ce que je vous disais, au terme, quand vous êtes dans une vision de sagesse, au point de vue philosophique, est-ce que vous n'allez pas redécouvrir une nécessité d'exprimer une connaissance de sagesse dans une connaissance symbolique? Même au plan proprement philosophique. Parce que justement, vous voulez montrer le lien qui existe entre la créature et Dieu dans une vision de sagesse. Alors, si c'est dans une vision de sagesse implique toujours un élément religieux, donc un élément affectif. Et alors, à ce moment-là, vous ne pouvez pas exprimer ce lien de la créature et du créateur sans une connaissance symbolique. Oui. Donc, la connaissance symbolique est au point de départ. C'est pas la même connaissance symbolique. Hein. C'est pas la même. C'est une connaissance symbolique différente parce qu'elle est religieuse. Elle est essentiellement religieuse, celle-là. Parce qu'elle lie le créateur et la créature. Alors c'est là où on devrait comprendre ce que c'est que le langage liturgique. Le langage liturgique est poétique et il est religieux. Il est poétique et il est religieux. Il n'est pas seulement poétique. Il est poétique et religieux. Et il a caractère de particulier, c'est qu'il unit la créature et le créateur. Et qu'il veut me faire comprendre les liens qui existent entre le créateur et la créature. C'est ça le propre d'un langage liturgique. Le propre d'un langage liturgique se situe là, hein, se situe dans ce point de vue-là. Donc, voyez, pour connaître un langage poétique, un langage liturgique, hein, c'est intéressant parce que c'est voir tout ce qui est impliqué. Il faut connaître une connaissance symbolique. Pour connaître ce qu'est une connaissance symbolique, il faut connaître l'inspiration. Je ne comprends pas ce que c'est, philosophiquement parlant, une connaissance symbolique, si je ne comprends pas ce que c'est l'inspiration. Parce que l'inspiration est source. Je peux apprécier une connaissance symbolique sans connaître l'inspiration. C'est bien évident. Mais si je veux analyser ce que c'est que la connaissance liturgique, elle implique une connaissance. Elle implique une connaissance symbolique. Elle implique un langage symbolique. Et elle implique en plus un langage de sagesse symbolique au niveau des relations de la créature et du créateur. Et alors en plus, s'il s'agit d'une liturgie chrétienne, la foi va assumer. Il y a un autre trois éléments. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est important à y réfléchir. D'essayer de comprendre comment, de fait, un langage liturgique. Nous y reviendrons, parce que nous ferons l'analyse de ça. Mais c'est pour vous montrer que ces petites analyses, hein, philosophiques sur la connaissance poétique est quelque chose de très fondamentale dans la vie de l'esprit. J'ai toujours besoin de revenir au berceau et d'y revenir consciemment, pas inconsciemment, Parce que quand c'est inconscient, c'est effrayant. Quand je reviens au berceau inconsciemment, vous voyez ce que fait. C'est la chute de la connaissance spéculative dans la connaissance poétique. Et à ce moment-là, ce n'est ni poétique ni spéculatif. C'est la chute, c'est l'inconscient des deux. C'est la chute des deux. Alors, il faut comprendre que cette connaissance poétique, elle est première génétiquement. C'est vrai, elle est première génétiquement. Mais quand je dis première génétiquement, ça ne veut pas dire qu'elle reste toujours dans cette imperfection première. Elle est première aussi d'une façon de dire.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant.